France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Encore une formation qui mérite d'être connue dans le département de Saône-et-Loire et qui prépare des professionnels à la gestion des arts vivants. L'originalité de ce cursus est de proposer à chaque promotion en licence la réalisation d'un festival. Rien de tel pour faire ses gammes. Ainsi est née l'association Initiar. Ensuite, nous appellerons Jean-Paul, ami des carnets, qui a consacré une partie de sa vie au handicap visuel et qui porte un projet unique en son genre de recyclerie de canne blanche.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Angèle Dos Santos, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez l'association étudiante des Initiars, créée en 2012 dans le cadre de la licence professionnelle qu'on appelle GEPSEC, cette gestion de projet de structure artistique et culturelle, mention art vivant. C'est vrai que c'est long, hein. GEPSEC, ça, c'est plus simple, au centre universitaire Condorcet du Creusot. D'abord une question, parce que la saison dernière, nous nous sommes largement inquiétés de la situation des étudiants. Vous êtes étudiante. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, Angèle?
Aujourd'hui, cette année, on a eu la chance de pouvoir retourner en présentiel. C'est vrai que l'année dernière, beaucoup d'étudiants n'étaient pas du tout en présentiel. Il y avait vraiment une minorité. Maintenant, on a la chance de retrouver les murs et les gens, nos professeurs.
Vous avez perdu du temps, voire une année?
Si je devais parler de mon cas personnel, oui. L'année dernière, j'étais dans des études qui finalement me plaisaient plus. Et c'est la pandémie qui a beaucoup aidé à ça.
Donc là, on va parler de la licence professionnelle, gestion de projet, structure artistique et culturelle mention art vivant. Donc, je répète, au centre universitaire du Creusot. Que peut-on faire une fois qu'on a cette licence en poche?
Avec cette licence, on peut travailler dans tous les domaines de la culture. On peut être directeur et directrice de grands théâtres, de conservatoires. On peut travailler dans la communication pour des entreprises. On peut travailler dans la technique du spectacle. On peut travailler vraiment dans tout le monde culturel. Ouais. Nous, au Creusot, du coup, on a cette spécialité art vivant. Donc, c'est danse, cirque et théâtre. Donc on est vraiment spécialisé là-dessus. Il y a beaucoup d'opportunités après. On peut aussi continuer les études après, faire un master dans le même domaine, ce genre de choses.
Alors l'association est née d'une responsable de la formation, Nathalie Mondet, créée donc en 2012, dans le but d'avoir un outil pour la création annuelle d'un festival. Autrement dit, on passe, si je peux dire, de la théorie à la pratique avec ce festival.
Exactement. Dans notre vie professionnelle, on sera amené à créer des événements semblables. Donc, il y a beaucoup de licences professionnelles qui ont des projets tutorés, mais beaucoup ne se réalisent pas réellement à la fin. C'est seulement théorique. Et nous, on a cette chance au Creusot que notre festival a réellement lieu. On appelle des réelles personnes et on crée un réel événement. On a cette chance d'être vraiment plongé dans le vif du sujet, quoi.
Le prochain aura lieu du 29 mars au 1er avril. Ce sera la 10e édition du Festival des Initiars. J'avais mentionné avec les étudiants de la dernière promotion le festival qui est passé entre les gouttes, si on peut dire, de la crise et qui s'est quand même produit au mois de mars pendant une seule journée au lieu de s'étendre sur plusieurs journées. Vous choisissez une thématique chaque année?
Oui, c'est chaque année, en fait, la promotion choisit la thématique qui lui correspond le mieux. Avec des échanges, on arrive à un thème qui nous plaît.
Et cette année, prochaine édition, la 10e, 29 mars, donc au 1er avril 2022, sera Adéona, en référence à une déesse romaine associée au retour du voyage. Donc, vous allez développer le thème du voyage à travers ces arts vivants.
Oui, exactement. En fait, on a vraiment voulu offrir au public l'opportunité de s'évader, quoi, de vraiment de voyager, d'être ailleurs du quotidien pendant un moment, enfin pendant quelques jours. Et c'est pour ça que le thème du voyage, en fait, nous est arrivé un peu comme une évidence, on va dire. C'est un peu comme un retour aux sources après cette période sanitaire très compliquée.
Je vois que les étudiants travaillent par groupe, hein, sur des projets, parce qu'il y a par exemple le thème de fusion, le voyage intérieur, il y a le trompe-l'œil, le voyage esthétique à travers les arts, la yourte, le voyage là au propre sens du terme, le voyage spatial aussi avec concert d'électropop. Donc chacun a sa spécialité. Et là, vous avez quand même au Creusot, vous êtes bien placé, vous avez une scène nationale. Est-ce que c'est pour vous un plus dans la programmation.
Ah oui, complètement. C'est déjà, on a la chance où on est d'avoir 3 scènes nationales dans notre département, qui est quand même pas rien.
Oui.
Et c'est vrai que d'avoir l'Arc, du coup, scène nationale du Creusot, du coup, elle est dans notre programmation. Le projet Trompe-l'œil se déroulera à l'Arc. Et c'est vrai que les avoir avec nous, déjà, ils nous forment beaucoup professionnellement. Et juste pouvoir faire une partie de notre festival dans le cadre de cette scène nationale, c'est vraiment une opportunité et une chance, quoi.
J'en profite, hein, donc il y a peut-être des étudiants intéressés, des parents qui peuvent aussi transmettre l'information avec ce lycée professionnel, cette licence, pardon, professionnelle JEPSAC de gestion de projet, structure artistique et culturelle. Il y a un lien. Et il y a celui des initiaires de l'association. Comme ça, vous pouvez vous informer, puis préparez-vous donc à ce festival. Vous avez le temps à partir du 29 mars prochain. Merci Angèle.
Merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
À Tournus, en Saône-et-Loire, toujours, Céline est membre du bureau d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, bien consolidée depuis sa création en 1990. 21 ans et toujours sur pied, ce qui est une très bonne nouvelle pour un secteur qui est en permanence mis en danger par le marché et la concurrence. Elle s'appelle ESP, Économie, Solidarité, Partage, et se positionne sur 2 axes que sont l'activité sociale et l'insertion par l'activité économique. ESP possède 4 structures. Une épicerie sociale et solidaire qui s'appelle au Caddie Fleuri. Une ressourcerie, rien ne se perd. Un atelier d'entretien des espaces verts, broyage et compagnie. Et un chantier de maraîchage, jardin d'Embreuil, soit une équipe de 15 encadrants. Comme l'entreprise a largement fait ses preuves, elle coopère avec la ville de Tournus et des chercheurs de l'université de Dijon afin d'améliorer les conditions d'accès à une alimentation saine pour tous dans le Tournugeois. C'est vraiment efficace. Le lien, c'est économie, trait d'union, solidarité, trait d'union, partage.com. Pour la première fois cette année, le stade athlético tunois, on reste toujours en Saône-et-Loire, à Autun, intègre à son cross du dimanche 28 novembre l'opération Courir pour la planète. Chaque participant recevra un arbre à replanter chez soi ou sur un espace public. L'initiative est soutenue par les communes du Grand Autunois Morvan afin de pousser les jeunes et les familles à une pratique éco-citoyenne de développement durable. Et cette opération s'inscrit dans le plan nature du département. J'ai quasiment tout dit, sinon que le rendez-vous est donné dimanche 28 novembre à 15h au plan d'eau du Vallon à Autun. Jean-Paul Moureau, bonjour.
Bonjour Philippe.
Jean-Paul, vous avez travaillé dans une unité de canne blanche à l'ESAD du Haut des Vannes à Liverdun, en Lorraine. Vous êtes membre de l'association des instructeurs de locomotion et des avégistes. Alors je découvre ce terme d'avégiste.
Oui, ça veut dire activité vie journalière.
Oui. Voilà. Il y a un marché important de canne blanche en France ?
Il y a un marché effectivement qui est somme toute limité, puisque les utilisateurs, utilisatrices... C'est un public restreint, mais bon, il y a une vraie préoccupation auprès de ce public et ces personnes en situation de handicap visuel.
Techniquement, vous avez participé, Jean-Paul, à l'amélioration en recherche et développement de ces cannes blanches.
Ben oui, j'ai eu cette chance à mon poste dans un ESAT, l'ESAT des Eaux Bleues à Liverdun. Effectivement, pour la France, il fallait se positionner par rapport aux grands majors mondiaux, puisqu'il y en a un qui existe du côté du Canada, et également vis-à-vis des produits d'importation.
Il y a des normes de sécurité. Normalement, on n'utilise pas n'importe quel matériel.
Non, alors il y a un grand débat sur la canne blanche qu'on pourrait classer en 2 catégories, parce que il y a la canne de signalement, qui est vraiment la fonction basique pour une personne déficiente visuelle dans la rue, et la canne de locomotion, qui est une canne réputée plus sérieuse, plus sécure, plus chère aussi, il faut le dire. Et donc, les conseils sont mal habiles parfois auprès des personnes qui veulent acheter leur première canne blanche. Mmh. Et là, on arrive dans un débat très compliqué, parce que entre une canne d'importation, que je dirais autour de 12-15 euros, et une canne made in Allemagne ou Suisse, que j'ai pu aller vérifier sur place, c'est plus près de 120 euros. Donc là, l'écart est formidable et les gens ont du mal à trouver le meilleur outil qui leur convient. C'est ça.
Mais la canne la plus adaptée, celle que l'on voit auprès de personnes qui prennent les transports en commun, par exemple, c'est une canne télescopique ou pliable, avec un embout roulant qui permet de bien sentir les obstacles. C'est celle-ci qui est la plus efficace.
C'est majoritairement la plus vendue, c'est vrai. Et c'est une canne de locomotion et qui est destinée aux gens qui ont appris à s'en servir correctement.
Puis alors, vous avez donc eu la bonne idée, Jean-Paul. Je dis la bonne, mais tout le monde ne réagit pas nécessairement efficacement à votre proposition. C'est une recyclerie, ressourcerie de canne blanche.
Ben oui, alors après avoir longuement réfléchi avec la profession des instructeurs de locomotion, on a fait plusieurs constats. Effectivement, cet objet qui, avant tout, on est sur le terrain du sensible. Hein. C'est la canne, c'est quelque chose. Les gens qui s'en servent ont une extrême sensibilité sur les espaces à parcourir. Et elle est fragile. Et solidité, sécurité et légèreté ne font pas bon ménage. Donc ça, c'est le premier point. Et en deux, mais j'arrête, je ne veux pas aller plus loin dans un débat un peu long et compliqué, c'est qu'on a constaté que les personnes aveugles et déficientes visuelles souhaitent elles aussi participer à cet élan de citoyens qui militent pour une planète durable et plus humaine, avant tout. Et donc la ressourcerie, recyclerie permettrait justement de récupérer ces cannes hors service, dont les gens n'en font plus rien, et aller vers eux dans un deuxième temps avec du conseil.
Mais Jean-Paul, logiquement, tous les organismes qui gèrent le public porteur de handicap, comme l'on dit, vous suivent sur ce projet de recyclerie.
Nous en sommes, Philippe, à l'initiative. Dans le carnet de campagne, j'ai bien perçu que c'est une initiative qu'il faut lancer, mais il faut mettre autour de la table effectivement tous ces majors de la distribution de canne blanche. Pour la France, j'ai eu la chance de rassembler beaucoup de gens autour de cette idée quand j'étais encore en poste à l'ESAT des Eaux Bleues.
Alors, prochaine étape, un lieu et une forme juridique.
Oui, c'est ça. Et alors, la première étape, c'est une adresse mail et un site où les gens pourront déjà se signaler. C'est le site de l'AILDV, A-I-L-D-V, c'est l'Association des instructeurs de locomotion. Et l'autre moyen, c'est une adresse qui va vous faire sourire.
Ah ben j'adore, et j'adore Jean-Paul, hein. Allez-y.
Alors, yes we can, ça ne pouvait pas mieux tomber. Oui. Yes we can, tout attaché, can avec un S, @gmail.com.
yesweekend@gmail.com pour l'adresse, entrer en contact avec Jean-Paul pour aller dans le sens de ce programme de ressourcerie, recyclerie, réparation dédié aux cannes blanches. Je vous souhaite une bonne suite dans ce projet indispensable dans notre économie circulaire. Merci Jean-Paul.
Merci Philippe.
Un petit mot de Mélanie et Yvan qui nous ont écrit hier. Nous avons souhaité quitter la région toulousaine, son domaine aéronautique, pour nous ancrer plus dans la terre. En fait, il précise, c'est une reconversion pour ma femme et moi, faire comme le baron perché d'Italo Calvino. Il est monté dans les arbres pour lire, se cultiver, être plus proche de la nature et observer la société d'en haut. Nous faisons, nous, un pas de côté. D'où le nom de leur programme qui s'appelle le baron perché à Saint-Jean-Goux, le national, la belle petite commune médiévale de 1000 habitants en Saône-et-Loire, où ils vont normalement à la fin du mois, si le calendrier des travaux est respecté, ouvrir un café, produits locaux, boutique de jeux de société, espace de rencontre, débat, concert, tout cela donc sous le nom de Le Baron Perché. Vous pouvez les suivre, lebaronperché.fr.